Radio X. Le retour en tour.
17h14 minutes, on reçoit un gars qui vient toujours nous voir quand Gilles n'est pas là, mais il vient aussi quand il est là. Mais c'est toujours plaisant, c'est le rédacteur en chef de Jouets.com qui est relationniste chez Benox, qui a été acheté récemment par Activision. Salut François Tadei.
Bonjour Hugo.
Comment ça va?
Ça va bien.
Et le pire, c'est que tu viens tellement de façon régulière quand Gilles n'est pas là que tu commences à cibler tes produits. Là, tu dis,
ouais.
ça pogne plus avec Gilles, ça pogne plus avec Hugo.
C'est ça.
Tantôt, on va parler de Pac-Man, mais avant, je veux que tu me parles un peu de comment ça se déroule chez vous depuis qu'Activision est devenu propriétaire.
Alors, ça fait un mois qu'on est devenu une filiale à part entière d'Activision.
Ouais.
Je le rappelle, est un gros éditeur de jeux vidéo américains qui est le numéro 2 dans le marché après Electronic Arts.
Mm-hmm.
Nous, ce que ça a eu comme impact, je dirais presque immédiat, parce que bon, ça fait un mois, c'est que ça nous a permis de recruter davantage de personnes.
Okay.
Ça fait une semaine qu'on fait vraiment, même deux, trois semaines, qu'on fait vraiment beaucoup de recrutement, qu'on passe des entrevues, on comble des postes qu'on n'avait pas avant dans l'entreprise, qu'on a ouvert des nouveaux postes, mettons, d'animateurs, modeleurs 3D, des gens artistiques. Et on ouvre également beaucoup de postes au niveau des programmeurs. Actuellement, là, on est environ 32 personnes. On va passer probablement 45-46 personnes dans les prochaines semaines.
Okay.
Et c'est surtout des programmeurs. Donc, si vous êtes des pros du C++, qui est un langage de programmation utilisé pour faire des jeux vidéo, tentez votre chance. C'est possible de travailler dans ce milieu-là.
Okay.
Et ben nous, ben ça, nos produits, ce qu'on faisait depuis plusieurs mois, ça continue parce que notre catalogue de production était plein pour l'année de toute façon. Alors, on termine les productions qu'on a avec d'autres clients et on va se concentrer exclusivement sur les produits d'Activision. Un des produits qu'on vient de terminer, c'est la version PC du jeu Fantastic Four.
Qui est basé
qui va paraître cet été. Qui sort dans les prochaines semaines. Alors, okay. On vient de terminer ça. Et là, on continue sur d'autres projets. Puis
dans le fond, vous prenez un jeu qui existe sur d'autres plateformes, Xbox, des fois c'est PlayStation, ça fait. Puis là, vous transférez ça en format PC.
C'est ça.
Et là, c'est beaucoup de jobs à faire pour que le format soit accepté par un PC.
Alors, c'est quand même plusieurs mois parce qu'il ne faut pas oublier qu'une console, c'est une architecture qui est fermée. C'est-à-dire que la Xbox, que vous avez peut-être acheté il y a 4 ans, c'est encore la même si vous en achetez une aujourd'hui. Ça n'a pas changé ben au niveau des composantes internes, si ce n'est quelques petites pièces ici et là qui ont changé, mais c'est la même chose. Donc, c'est un système fermé qui ne change pas. Alors, développé pour une plateforme il y a 4 ans, aujourd'hui, ça ne change pas. Si vous avez eu un PC il y a 4 ans, vous avez pu peut-être acheter une nouvelle carte vidéo, une nouvelle carte de son. Donc, votre PC a évolué, a changé. Alors, les concepteurs de jeux vidéo qui travaillent sur console,
okay,
travaillent toujours avec la même console pendant environ 5 ans parce que c'est environ le cycle moyen des consoles. Tandis que Super PC, il faut toujours se mettre à jour. Bon, ben là, Nvidia vient de lancer maintenant une nouvelle carte vidéo. OK, il faut mettre à jour notre jeu pour qu'il fonctionne ou que ça soit s'assurer que ça soit compatible, qu'il n'y ait pas de bugs et de problèmes. Tandis que lorsqu'on prend un jeu de Xbox à PC, il y a tout cet aspect-là qu'il faut tenir compte parce que okay, des saveurs de PC, si on veut, il y en a beaucoup. Beaucoup plus.
Je comprends. Puis il faut toujours s'ajuster évidemment à la nouvelle technologie, donc ça vous pousse toujours à aller vers le mieux.
Mais et l'avantage aussi, c'est qu'on reçoit la nouvelle technologie souvent en avance. Donc,
là,
on a des trucs cool.
On s'amuse, on se couche tard.
On voit des choses qui n'existent pas encore sur le marché.
Ouais, c'est ça, c'est le boss, là, M. Brown.
Oui, mais c'est ça, François, l'après-midi. Puis...
OK, line-up intéressant aujourd'hui. Puis tu veux qu'on commence avec la Cour suprême américaine. C'est un jugement qui, tu me dis, là, est tombé presque aujourd'hui.
Oui, c'est tombé aujourd'hui. Okay. C'est attendu quand même depuis 4 ans. C'est une grosse bataille juridique entre les majors du cinéma et de la musique.
Mm-hmm.
Contre des compagnies qui font des logiciels comme Grokster puis Morpheus, donc des logiciels de partage de fichiers sur Internet.
Oui.
Et là, le jugement est implacable. Alors, il y a pas... Les 9 juges étaient tout à fait d'accord, c'était unanime. Les compagnies qui fabriquent ces logiciels-là pourront être poursuivies pour avoir incité à briser, si on veut, les droits d'auteur de pièces musicales et de films qui sont distribués sur ces réseaux-là.
Il n'y avait pas, à l'époque, où il y a quelques mois, des nouvelles à l'effet qu'on voulait possiblement poursuivre les fournisseurs?
On voulait poursuivre les fournisseurs, c'était une route qui était envisagée, mais aussi les individus. Et ça, on le fait. On en a entendu parler.
Oui.
Ça n'a pas été une mesure très populaire. Il y a eu des campagnes contre...
C'est complexe aussi. Là.
C'est complexe. Et je vous dirais que depuis qu'ils ont fait ces poursuites-là, le nombre de personnes qui ont été condamnées à payer une amende d'environ 3 000 $, c'est environ seulement 600 personnes aux États-Unis. Donc, 3 000 $, des grosses poursuites d'avocats pour aller chercher ce montant-là, ça vaut pas la peine. Alors là, on a voulu vraiment cibler le problème à sa source, donc ceux qui conçoivent ces logiciels-là. Et là, ce jugement-là va vraiment renvoyer évidemment la balle aux cours inférieures où il y a plusieurs petits procès aussi en cours depuis quelques années.
Mm-hmm.
Ils vont devoir interpréter ce jugement-là qui est quand même très clair. Toute compagnie qui fabrique un logiciel qui pourrait inciter à pirater des films et de la musique sera possiblement poursuivie. Ça va également ouvrir la poursuite, la porte à de nouvelles poursuites. Parce que là, évidemment, il y a des produits sur ce marché, il y en a plusieurs. Bon, on passe à BitTorrent, par exemple, qui est assez populaire, à Casa, et ainsi de suite. Alors, il va y avoir des poursuites entamées contre tous ces produits également.
Es-tu le seul sur Winamix?
Non, Winamix est encore populaire aussi. Il y en a beaucoup de ces produits-là parce que...
Non, ça m'inquiète, j'entends pas beaucoup de Winamix dans ce que tu dis. Casa est un des plus populaires, mais je pense qu'il y a beaucoup de
virus et
de ce qu'on n'aime pas dessus.
C'est ça. Et là, ce que ça va faire, c'est que tous ces produits-là vont prendre disparaître après des batailles juridiques dans les prochaines années. Et il va y avoir d'autres produits plus underground qui vont sûrement faire surface. Mm-hmm. Donc, les gens qui étaient habitués d'utiliser ces produits-là vont essayer de se revirer vers d'autres solutions, en trouveront peut-être pas facilement. Alors, les compagnies de musique qui ont des services justement en ligne d'achat de musique vont prendre en bénéficier. Parce que là, les gens vont se tanner de ne pas trouver la musique qu'ils cherchent sur les nouveaux systèmes un peu plus underground, complexes à utiliser.
Fait qu'il y en aura toujours, dans le fond.
Il y en aura prendre toujours. Mais là, ça va vraiment dissuader beaucoup de compagnies à entrer dans ce marché-là et faire un produit pour avoir une forme de rentabilité.
OK. Le iPod. Je pense qu'il n'y a plus besoin de présentation, mais le iPhone, oui.
Alors, dans les prochains jours, Apple et Motorola vont dévoiler ce nouveau produit. Alors, ça fait longtemps qu'on en entend parler quand même, à peu près plus d'un an. C'était sûr que ça allait arriver. Bon, des téléphones cellulaires, presque tout le monde en a. C'est très populaire, très commun. Des iPods, c'est pas tout le monde. C'est vraiment les mélomanes, les tripeux de musique qui se sont achetés ça. Donc là, on va avoir un nouveau produit sur le marché qui va être commercialisé seulement aux États-Unis d'abord à partir du 4 juillet.
Ah tiens.
Bien sûr.
Le long week-end.
Le iPhone de Motorola qui est basé sur le modèle E398, pour ne pas le confondre avec d'autres.
Oui, c'est sûr. Très important, je l'ai en mémoire.
Et ce modèle-là, bien, il aura la spécificité d'avoir 512 mémoires, donc mégas de mémoire, pour télécharger à peu près 8 heures de musique.
Fait que c'est même plus que l'iPod Shuffle.
Non, l'iPod Shuffle, on l'a jusqu'à quoi, un gig maintenant, là? Donc, c'est semblable, on va dire que c'est semblable à l'iPod Shuffle au niveau des capacités musicales. Il va y avoir une version d'iTunes spéciale, donc le logiciel pour aller télécharger la musique et aussi la modifier, bon, avec les réglages, les couleurs, tout ça, pour le téléphone cellulaire de Motorola. Et évidemment, pour pouvoir l'utiliser, il va falloir s'abonner à un fournisseur de services. Uh-huh. Aux États-Unis, c'est Singular. On présume que le coût d'une pièce va monter, parce que là, évidemment, vous avez le prix moyen, c'est environ quoi? Environ 99 sous lorsqu'on télécharge une pièce sur le service iTunes d'Apple. Mm-hmm. Mais là, Singular va vouloir se chercher une cote. Motorola va vouloir se chercher une cote. Donc, ça pourrait faire monter les prix des pièces jusqu'à 3 $.
C'est moins intéressant.
Et là, l'ombre au tableau, c'est est-ce qu'ils vont permettre aux utilisateurs qui ont déjà téléchargé plein de pièces, qui en ont sur l'ordinateur, de les prendre et de les mettre sur leur iPhone? Et ça, c'est pas clair actuellement.
Je pense qu'ils n'ont pas le choix.
Ils pourraient peut-être le bloquer pour inciter les gens à utiliser le système iTunes. Il y a des... Disons qu'une des raisons du retard de ce produit, c'est justement, ils veulent trouver une solution pour ce problème-là. On va savoir dans les prochains jours c'est quoi, dès que le produit va être lancé. Mais on sait qu'il va pouvoir justement être interfacé à un ordinateur, à un système de son et dans sa radio d'auto pour pouvoir écouter. On prend son cellulaire, on met ça dans l'auto, en même temps qu'on le recharge, on écoute la musique. Alors ça, c'est ça.
C'est pas fou, hein, comme utilisation, parce que c'est sûr que c'est un iPod, c'est trippant, mais un cellulaire aussi. Mm. Fait que là, si t'as 2-3 appareils, ça devient tannant.
Ouais. Mais Apple prend un risque avec ce produit-là, parce que son principal concurrent, l'iPhone, ce sera l'iPod.
Ouais, je comprends. Mais ils en ont vendu quelques caisses.
Quelques millions, ouais.
Puis je te dirais que le Shuffle est venu probablement aussi pour les gens qui ont un peu moins de budget puis qui s'intéressent un peu moins.
C'est ça.
Puis il y a beaucoup de promotions aussi. Je suis allé chez un Grand Cherokee, moi, pour en avoir un, là. Pas un Grand Cherokee, mais un iPod Shuffle. Et beaucoup de jumelage avec des compagnies, justement, comme Chrysler. T'essayes une auto, par exemple, puis on t'envoie un iPod Shuffle par la poste. Aussi, le nouveau magasin, en fait, les Radio Shack qui ont été achetés par La Source. Je sais pas si t'as remarqué la pub. Le gars a un iPod Shuffle dans les mains. Tu sais, je sens qu'on pousse beaucoup ce produit-là parce qu'il est moins cher. Il est plus abordable, puis c'est sûr que tu te donnes la piqûre avec ça, puis après, tu dis « ouais ».
Peut-être je vais aller un modèle plus élevé.
Je vais aller m'en chercher un vrai, puis ça va devenir mon petit stéréo dans ma chambre, dans l'auto, ça va devenir... Tu sais, avec tes accessoires, aujourd'hui, tu peux faire un gros party, mais pas trop de problème.
Pour terminer, pour l'iPhone, au Canada, on ne sait pas encore quand est-ce qu'on aura ça. Il va falloir qu'une compagnie comme Rogers, Bell, offre le service, évidemment, et le modèle de téléphone.
200 000 numéros de cartes de crédit, on a entendu ça, de Visa et Mastercard qui ont été volés.
Ouais.
Et c'est pas un bug.
L'erreur est humaine, hein? Comme on dit.
Ouais.
Ben là... Alors, évidemment, suite à cette histoire d'il y a quelques jours, où au début, on parlait d'un vol présumé de 40 millions de cartes de crédit. Là, évidemment, ça n'a absolument pas aidé la réputation d'Internet, où on dit « Ah, carte de crédit sur Internet, faut pas utiliser ça, c'est dangereux. » Donc, ça nuit énormément. Donc, c'est pas 40 millions, c'est 200 000 cartes qui ont été exportées. 100 000 provenant de Visa, 68 000 de Mastercard et 30 000 d'autres compagnies. Fait noter, 70 000 de ces cartes-là, c'était des cartes de Français de France. Alors, peut-être que c'est la fraude vient de ce secteur-là, on ne sait pas. Donc, l'enquête qui était actuellement conduite par Visa et Mastercard au cours des dernières semaines, et évidemment avec le FBI et d'autres instances, laisse croire que l'erreur est humaine. C'est-à-dire que la compagnie qui était responsable de faire transiter les informations, c'est Card System, ils avaient été certifiés, non pas ISO 9001, mais d'une norme de sécurité de Visa Mastercard, comme quoi quand l'an dernier, oui, vous êtes A1, vous respectez toutes nos normes de sécurité, c'est parfait, continuez à faire votre travail. Et là, après avoir analysé l'incident, ils se sont rendu compte que, ben, un an plus tard, ils étaient plus tout à fait dans les normes, cette compagnie. Ils ne respectaient plus tout à fait les normes de sécurité. C'est quoi des normes de sécurité en informatique? Quand on a des serveurs, c'est de les mettre à jour au niveau de la sécurité. Donc, vous avez Windows d'installer pour la version serveur. Il y a des bugs à tous les jours qui sortent. Il faut installer des petites patches ou des rustines, comme on dit en français, sur ces serveurs-là.
On entend régulièrement des rustines. Des rustines. Donc, Marie-Claude, est-ce que tu as ajusté les rustines là, sur ton ordinateur de portable?
Tous les jours, Hugo.
Merci.
Mais évidemment, dans les entreprises, il y a une personne qu'on appelle l'administrateur réseau, que c'est sa job de mettre les rustines de Windows serveur pour que ça soit à jour. Également, mettre à jour les antivirus, installer un pare-feu. Et là, il semblerait que la personne qui était responsable de ça avait les doigts ailleurs que sur son clavier probablement pendant cette période.
Est-ce que ça se peut qu'on veuille mettre la faute sur un humain pour pouvoir dire le problème, on l'a congédié, puis garder nos clients?
Probablement, oui.
Parce que si on dit, ah ben là, c'est notre serveur, ouais, mais si votre serveur n'est pas fiable,
non, on envoie la faute à quelqu'un d'autre, à Microsoft. Ouais.
On ne le saura jamais probablement, mais c'est plus facile de virer Bob qui travaille la fin de semaine sur les serveurs que de fermer la compagnie.
Oui, parce que ça, c'est très grave. Ça va entacher la réputation de Card System là, à vie. Là. Ils vont avoir beaucoup de difficultés à s'en remettre.
200 000 numéros volés.
Oui, il faut dire, rappelons-le, si vous êtes une personne, vous servez des choses, votre prochain compte de Visa au Québec, on a la loi de la protection du consommateur qui nous limite à 50 $ de frais si jamais on est fraudé. Alors, si quelqu'un, vous voyez un achat d'un toutou d'Elvis sur eBay pour 1500 $ sur votre carte de Visa, c'est probablement pas vous qui l'a acheté ou quelqu'un vous connaissez. Alors, à ce moment-là, vous portez plainte et vous aurez à payer seulement 50 $.
On parle de consoles aussi. Tout à l'heure, on a... en tout cas, j'ai appris comment fonctionnent les consoles Xbox puis Nintendo. Ben, enfin, on a regardé ça large un peu. Mais là, tu me dis que Nintendo va devancer Sony, où c'est fait?
Au niveau des consoles portables, on sait qu'il y a une guerre qui se dessine à l'horizon depuis que Sony a lancé sa PSP. Alors, Sony est entré avec...
PSP contre Nintendo DS?
Nintendo DS et Nintendo Game Boy Advance, parce que Nintendo a deux consoles sur le marché en même temps. La console, on va dire, d'entrée de gamme, à 100 $ pas cher, le Game Boy Advance. Ouais. Le DS, un petit peu plus cher, le double du prix, mais deux écrans, stylet, écran tactile, donc plus high-tech. Et Sony est arrivé avec la PSP, qui, elle, est beaucoup plus chère à 300 $. Il semblerait que le lancement n'avait pas été aussi bon que prévu pour Sony, parce que là, Sony revoit à la baisse ses prévisions de vente pour l'année. Alors, Sony prévoit fabriquer 12 millions de PSP au lieu des 18 millions prévus. Alors, c'est un recul quand même important. Tandis que Nintendo, eux, vont de l'avant et disent, nous, 20 millions, c'est ce qu'on va livrer de Nintendo DS, sans compter les Game Boy Advance. Alors, c'est un net avantage à Nintendo qui a réussi en lançant probablement des jeux plus originaux et plus adaptés aux gens qui veulent utiliser une console portable très peu de temps, des fois dans l'autobus, un petit voyage rapide, que Sony qui a préféré mettre des jeux avec beaucoup de visuels, mais des jeux qu'on a déjà sur nos consoles de salon. Donc, moi, quand j'ai, mettons, ma PSP, puis j'ai ma PlayStation 2 à côté, si je veux jouer à un jeu de baseball, je vais prendre ma PlayStation 2 puis jouer sur ma grosse télé. Je vais pas prendre ma PSP dans mon salon.
Il n'y a pas le format aussi qu'avait à un moment donné Sony. Ben, en fait, Sony a toujours son propre format, ce qui fait que il faut que tu aies été chercher un logiciel pour transformer un DVD que tu as à la maison, par exemple. Ils donnaient Spider-Man avec, mais...
Il y a aussi le fait, bon, Nintendo a eu l'avantage parce que son DS, on pouvait mettre des jeux Game Boy Advance dessus. Donc, toute la librairie ancienne de jeux Game Boy, il y a plus de 1000 titres. On peut jouer sur le DS. Sony arrive avec le UMD, son espèce de petit disque, qui est un nouveau format propriétaire qui n'existe pas. Ils ont lancé beaucoup de films avec ça. Ils ont eu un succès modéré jusqu'ici. Ils ont écoulé plus de 100 000 films de différents styles, des films plus pour ados. C'est quand même beaucoup, là. Mais il faudrait que les compagnies de films offrent, par exemple, qu'on achète un coffret DVD. Ben,
qui est
on
aussi
a le DVD
dedans.
Et l'UMD dedans. Et ça s'en vient au Japon. Ce qui s'en vient plus, par contre, c'est l'industrie de la pornographie sur le PSP. Ça, les Sony ne voient pas ça d'un bon œil nécessairement, même si on sait que ça va peut-être aider à vendre des PSP.
Qu'est-ce que tu veux dire? Des films porno en format...
Oui, explicite, là, sur les PSP. Donc, tu es dans l'autobus, tu te prends ton PSP et...
Et peut-être plus.
Peut-être plus.
Bon.
Ben, alors, vous me dites... Tu vas t'acheter un PSP?
Ben, non, arrête. Non.
je prends pas l'autobus.
Pour ça qu'il est pas zoné, hein, en passant. Hein.
Ah, il est pas zoné?
Donc, si c'est ça, vous pouvez importer des choses du Japon.
Arrête. Dégueulasse. Pac-Man fête ses 25 ans. J'ai vu ça récemment, puis j'ai été surpris.
C'est drôle, Namco, qui est créateur de Pac-Man, n'a pas de date exacte. On sait que c'est à l'été 1980 que la mascotte est née. C'est la première icône du jeu vidéo Pac-Man. Ouais. Tout le monde se souvient de Pac-Man. On oublie que c'est la boule jaune qui ressemble à la
pizza. C'était le premier jeu vidéo?
Non, ça n'a pas été le premier jeu vidéo. Bien avant ça, on a eu Pong en 1973, donc c'est quand même 7 ans plus tôt. Et avant, on a eu des jeux comme Space War, qui étaient dans les universités. Là, c'était les...
Avec quelques cartes. Carte B, Bob!
Carte forêt.
Parfait, deuxième tableau.
Ouais. Non, non, mais Pac-Man, lorsqu'il est arrivé, il faut dire d'abord que le premier nom de Pac-Man, c'était pas ça, c'était Puck-Man. B-U-C-K. Et évidemment, pour des raisons de commercialisation aux États-Unis, on a voulu changer le nom pour pas que des gens grattent la petite barre du P sur les machines d'arcade pour que ça donne autre chose.
Puck-Man, ouais.
C'est ça.
Je comprends.
Et le nom de Puck-Man, ça vient du mot japonais paku-paku, qui signifie l'acte d'ouvrir et fermer la bouche pour, bien sûr, manger des aliments.
OK.
Les Japonais ont toujours une explication pour les noms des jeux vidéo. On fait une petite recherche. Là. C'était vraiment la première fois qu'on incarnait un personnage dans un jeu vidéo. Au lieu d'être un tank, un auto, on était une créature, une bébite vivante. Et on fait s'identifier au héros du jeu qui évitait les obstacles de la vie tels que des fantômes.
Toujours rêver d'être une boule jaune qui mange des points.
Des points et des plus gros points également.
Je m'identifie vraiment à Pac-Man.
Dans les 5 années qui ont suivi, il y a eu toute une série de jeux, des dessins animés, une chanson Pac-Man Fever qui est montée dans le sommet des palmarès de la chanson pop en 1982. Alors, la première partie parfaite de Pac-Man, c'est-à-dire que compléter les 256 labyrinthes au complet en mangeant...
Il y en a 256? Ouais,
en mangeant tous les fruits, donc toutes les cerises, puis toutes les petites boules, tous les fantômes, ça donne un total de 360 points, pardon. Okay. Et c'est un certain Billy Mitchell qui a accompli ce record en 1999. Billy Mitchell, il y a juste deux personnes qui ont réussi à égaler ce record, qui est évidemment la partie parfaite de Pac-Man. Et récemment, je regardais sur
Internet... partie parfaite, tu veux dire, on perd pas de petit bonhomme jaune dans le bol.
Tout est parfait. Le score maximal possiblement obtenu. Et le 256e niveau est buggy en passant. L'écran est comme coupé en deux, puis c'est... Le labyrinthe en haut est correct, en bas c'est tout buggé, là, donc on peut pas aller plus loin après. Là. Le jeu il est fini. Là. On atteint la limite de les programmeurs se sont rendus jusque-là, parce qu'ils ont laissé faire. Et puis c'est buggé.
Aïe! Mais là, il n'y a pas juste le format, parce que moi, quand on me parle de Pac-Man, j'ai un souvenir bien précis, c'est le jeu en table.
Oui.
Le modèle où tu peux même être deux. Là.
Deux personnes.
Tu peux jouer chacun ton tour en alternance sur une table. Uh-huh. Puis c'était bon pour le dos, puis la posture, t'es super intelligent. Et il y avait aussi le petit jeu portable, Pac-Man.
Bien sûr, de Coleco, je crois.
Ouais. Puis il y avait, mais c'est seulement ces deux formes-là, ou s'il y avait aussi sur
toutes
des plateformes.
Consoles. Pac-Man, okay. Même encore aujourd'hui, Pac-Man est encore très répandu dans l'industrie du jeu vidéo. Il n'a pas réellement disparu.
Oui,
il est encore très fort. Namco volant, évidemment, bon, c'est le 25e anniversaire, donc on lance plus de jeux, mais je vais te donner une idée, on a Pac-Man World 3 qui va sortir à l'automne prochain.
Tu changes quoi?
Ben, Pac-Man est en 3D, dans des univers un peu plus réalistes.
Ben oui.
Et évidemment, il va y avoir toutes sortes de jeux.
Les fantômes ont la vraie, puis genre affaire là.
Et il y a pire que ça, hein, parce que si vous prenez des étudiants qui n'ont rien à faire à New York, qu'est-ce qu'ils pourraient faire par hasard dans Central Park et l'environ de Manhattan? Ben, soit faire une partie de Pac-Man en temps réel, grandeur nature, avec des cellulaires, des systèmes de géolocalisation. Et là, on se court déguisé en Pac-Man dans les rues pour faire un Pac-Manhattan. Et ça existe vraiment.
Aïe, aïe!
À Singapour, ils se mettent des systèmes de réalité virtuelle et ils se courent dans les rues virtuelles de Singapour. Et là, c'est le Human Pac-Man. Alors, il y a toutes sortes de projets qu'on cherche un peu sur Internet, sont fantaisistes basés sur Pac-Man. Donc, ça a vraiment marqué l'imaginaire collectif des gens, ce petit personnage.
Si vous pensiez que le bout sur Pac-Man était fucké, le dernier point sur ma feuille, c'est Conquer, Live and Reload. Un remake d'un jeu vidéo. T'as peur, là. Il y a un jeu vidéo qui s'appelle Conquer.
Ouais.
Et quelqu'un qui a refait un jeu vidéo, qui a un remake de jeu vidéo, là.
C'est ça, un peu comme, bon, Psycho a été refait. Ouais. Sauf que Psycho, ça a quand même pris plusieurs années avant qu'on se décide d'affaire remake.
Oui, la technologie a évolué.
Conquer Bad Fur Day est paru sur le Nintendo 64 il y a seulement 4 ans.
Okay.
Vous allez me dire, ben, remake d'un jeu de 4 ans, il me semble que
ça
c'est
bon.
Ben, c'est parce que Microsoft a comme acheté la compagnie qui faisait ce jeu-là pour 375 millions, la petite compagnie. Alors, ils l'avaient vraiment bien évalué.
Ben, j'espère pour eux.
Et là, honnêtement, un de leurs premiers, bon, c'est leur deuxième produit pour Microsoft sur la Xbox, c'est un remake de Conquer qui était sorti à l'époque alors que la Nintendo 64 s'en allait. C'était vraiment un des derniers jeux sur cette console-là. C'est surtout troublant à l'époque parce que c'était un jeu mature, pour les adultes seulement, sur une console de Nintendo qui était toujours réputée jeu pour enfants.
Ouais.
Et juste pour vraiment vous simplifier la vie, le personnage principal du jeu, c'est Conker, un écureuil,
ouais,
qui, après avoir fait une beuverie mémorable avec ses camarades, sort pour aller retrouver sa petite amie en sortant de l'auberge et se perd pour se ramasser dans un monde où il va affronter toutes sortes d'ennemis plus étranges les uns que les autres, dont un qui s'appelle The Great Mighty Pooh.
Mmh.
Alors, c'est un énorme tas d'excréments qu'on va combattre dans ce jeu. Alors, c'est des parodies aussi de films, hein, des parodies.
Ça n'a pas d'allure. Un écureuil sur la brosse.
C'est ça, mais à l'époque, ça avait fait...
Qui cherche sa blonde, ouais, avec des carabines, qui s'en prend des tas de marde.
C'est ça,
si je résume bien.
À peu près. Entre autres, et le tas de marde, c'est un impresario de musique qui fait de l'opéra. Hein. Donc, il faut...
Ah oui, non, on comprend. C'est pas n'importe quel tas de poux.
Ah oui, inutile de dire qu'à l'époque, en 2001, ça avait fait scandale, ce jeu-là, sur la console de Nintendo. Les parents n'étaient pas contents. Les enfants non plus. Ils ne pouvaient pas l'acheter, juste à 17 ans et plus.
C'est ça l'affaire. C'est maman, je veux Conker. Ah oh, ouais, mets ça dans le panier, là, on va t'acheter ça. Hein, t'arrives à la maison.
T'es un peu surpris. Ouais, et là, évidemment, Microsoft a refait le jeu au goût du jour, au niveau visuel, mais c'est identique au jeu original. On a ajouté un petit mode multijoueur pour jouer sur Internet avec des amis.
Okay.
Sauf que je dois dire que c'est quand même limité comme mise à jour. Il a conservé peut-être des défauts aussi de son prédécesseur.
Okay. Il finit comment? Il arrive sur sa brosse, finalement, il trouve sa blonde puis il s'endort avant?
Non, il devient le roi du royaume. C'est une séquence qui est basée sur l'orange mécanique en plus. Là. Donc, ils ont vraiment parlé des films. Il faut dire que peut-être un autre défaut du jeu, je te dirais, c'est qu'il a mal vieilli l'humour de ce jeu-là. Parce que il y a 4 ans, des parodies de Matrix, c'était drôle.
Ouais,
aujourd'hui, on en a vu pas mal. Hein?
Ouais.
Donc, c'est à voir comme jeu quand même, si vous n'avez pas connu Conker, parce que c'est vraiment un personnage très attachant, très sympathique. Il y a beaucoup de personnages complètement fous dans ce jeu-là. Les billets de banque qu'on ramasse ont des cigares et ont des yeux et te traitent de cave à chaque fois que tu les vois. Alors, tu sais, c'est comique quand même. Pour les gens qui aiment l'humour scatologique, je pense que c'est un bon choix.
OK, mais c'est 17 ans et plus.
Oui, 17 ans et plus.
Pourquoi pas 18?
Je sais pas.
C'est spécial, ça. 17 ans et plus, on entend rarement ça. Conker Live and Reload. Microsoft, il a quand même acheté ça 375 millions.
La compagnie qui avait ça, mais ils misent beaucoup sur eux pour la prochaine console, la Xbox 360. Ils ont 2-3 jeux en développement qui vont peut-être faire un malheur, on ne sait pas. Sinon, Microsoft va pouvoir se mordre les doigts de cet investissement.
C'est encore bien allé, François. Toujours un plaisir de te recevoir. François Talley, qui est rédacteur en chef de Jouets.com et relationniste chez Benox, récemment acheté par Activision. D'ailleurs, tu le disais tout à l'heure, s'il y a des gens qui comprennent le langage...
C++.
Ouais. Et tu as une adresse Internet?
Binox.com.
Cherche du monde.
Oui.
Ça vous tente de travailler, allez-y. Lâchez-vous là. Merci, François.
Au revoir.
Prochaine, bye.
Le retour.